France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Olivier Kappeler, l'empoisonneur de vieilles dames. Le 7 avril 2015, Suzanne Bailly, 85 ans, tombe inconsciente dans son appartement du Canet, dans les Alpes-Maritimes. Avant de s'évanouir, elle a le temps de prévenir un ami, un homme plus jeune qu'elle et qui lui rend de menus services. Quelques heures plus tard, ils sont tous les deux pris de vomissements affreux, rejetant une bile noire comme de l'encre de sèche. Les analyses le révéleront, ils ont bu à leur insu de l'atropine, un poison plus fort que le cyanure. Mais qui peut donc bien en vouloir à ces deux personnes sans histoire? L'enquête s'oriente rapidement vers celui qui aurait eu intérêt à la mort de Suzanne, un certain Olivier Kappeler, son débit rentier. Quelques années auparavant, en effet, ce monsieur Kappeler a acquis l'appartement de Suzanne en viager. Au fil de l'enquête, on découvre un homme au profil de gendre idéal, qui sait particulièrement se faire apprécier des vieilles dames. Un homme qui pourrait avoir d'autres empoisonnements sur la conscience, arsenic et vieille dentelle. Notre invité aujourd'hui, Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin, spécialiste des faits divers. Il est le premier à avoir écrit un article sur le sujet, article qui va bouleverser cette enquête. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Mercredi 19 janvier 1972, jour des sorties cinéma. Une affiche jaune canari promet une bonne tranche de rire. Au scénario, René Goscinny. À la caméra, Pierre Tchernia. Et devant, Michel Galabru, Michel Serrault, Rosie Vart et Claude Brasseur. Son titre, Le Viager. Goscinny et Tchernia y mettent en scène la famille Galippo. Galabru campe le père, en médecin généraliste incompétent et roublard. Et dans les premières minutes du film, on le voit ausculter un vieux souffreteux, Louis Martinet. Sous les traits de Michel Serrault, confie à son docteur sa petite forme, sa solitude de célibataire, sans enfant. Une seule chose a réjoui son cœur, passer du temps dans la petite maison qu'il a acquise récemment, au soleil et au calme, dans un village de pêcheurs aux quelques baraques qu'on appelle Saint-Tropez. Vient alors à Michel Galabru, ou plutôt au docteur Galippo, une idée à souffler à son patient pour qu'il vive une retraite anticipée et bien méritée.
Vous n'avez pas pensé au viager ?
Au viager ?
Oui, de viager, ce serait la bonne solution.
Ben, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, le viager.
Oh, ça c'est très simple. Un enfant pourrait vous l'expliquer.
Il y a un vieux monsieur qui vend sa maison en viager à un autre monsieur. Alors, chaque année, l'autre monsieur donne de l'argent au vieux monsieur, mais la maison n'est pas encore à lui. Le jour de la mort du vieux monsieur, l'autre monsieur rigole drôlement parce que la maison est enfin à lui. Alors, il y a un chouette enterrement et tout le monde est content. C'est ça le viager. C'est intéressant, hein?
Ah oui, c'est intéressant. Pensez-y, hein, monsieur Martinet. Pensez-y, hein.
Tu penserais, docteur.
Avec le viager, le ressort comique est tout trouvé. La preuve, ce brave Martinet, bien mal en point au tout début de l'histoire, va enterrer au fil des ans tous les membres de la famille Galippo qui a acquis la maison de Saint-Tropez en viager et atteindre finalement les 100 ans. Ici, on viager. La tuile pour ce genre d'investissement. En tout cas, plus de 2 millions de Français se gondolent devant le pari perdu de la famille Galippo. Le film se classe 8e au box-office cette année-là. Bah, le viager. Super sujet pour une fiction, c'est clair. Mais dans la vraie vie, ça peut être beaucoup moins drôle.
C'est l'horreur, un empoisonnement, c'est l'horreur. Vous voyez des bestioles, vous voyez... c'est l'horreur.
Oh, Suzanne Bailly, on sait quelque chose. Grande, mince, les yeux bleu ciel et la peau translucide. Elle a 78 ans quand elle décide de mettre en vente son petit appartement du Canet sur la Côte d'Azur. Elle n'a aucune descendance, une petite retraite. Elle opte sans hésiter pour le viager. De plus, elle connaît bien le système. Cet appartement, elle l'a elle-même acquis sous cette formule presque 30 ans plus tôt, en 1979. À cette époque, Suzanne est dactylo chez Alstom, sur le territoire de Belfort, le département où elle a grandi, puis vécu sa vie d'adulte auprès de sa mère et de sa sœur, handicapée, Odette. Et elle n'a pas les moyens d'acheter autrement qu'en viager. Mais c'est comme ça. Alors elle se constitue un petit patrimoine qui pourrait mettre sa sœur à l'abri si elle venait à disparaître avant elle. En 2005, après 26 ans de rente versée, Suzanne Bailly peut prendre possession de son appartement du Canet, le dernier occupant étant parti au cimetière. Elle a 75 ans. Un an plus tard, Odette meurt. Suzanne ne doit plus s'occuper de personne, sauf de son chien. Alors, chaque hiver, elle quitte son pavillon Belfortin pour réchauffer ses vieux os au doux soleil de la Méditerranée. À la résidence La Sérénité du Canet, elle s'est fait une ribambelle d'amis. Quatre autres femmes y vivent seules. Dans l'appartement d'en face, il y a Annie Roy, pratiquement le même âge que Suzanne. Les trois autres dames sont de la génération d'après. Cela ne les empêche pas de s'inviter à tour de rôle, pour un apéro au champagne, une galette des rois. Elles se font dévirer dans des restos de poissons de la Riviera. Et surtout, elles veillent les unes sur les autres. Les cinq célibataires peuvent aussi compter sur Gabi, pour tous les menus travaux. Un tableau accroché, des courses à remonter. Il a une soixantaine d'années, il porte plutôt beau cet homme. Bouc bien taillé, yeux bleus, boucles d'oreilles. Il est l'homme à tout faire de ces dames, mais surtout leur homme de confiance. Alors quand le 7 avril 2015, Suzanne se sent si mal après le déjeuner, c'est tout naturellement Gabi qu'elle appelle. Et il raconte, au micro des Pieds sur Terre, sur France Culture.
Donc je vais au secours de Madame Bailly, une fois qu'elle m'a appelé, et moi j'ai trouvé Madame Bailly par terre, en train de baver et tout. Je l'ai tirée, elle était inconsciente, je l'ai tirée avec le tapis parce que j'arrivais pas. Et Madame Roy, elle est arrivée, elle m'a aidé à tenir les jambes, je l'ai mise sur son lit, dans la position qu'elle puisse respirer. Elle parlait un petit peu à Madame Roy, pas à moi. Elle lui a dit l'eau. L'eau. Alors, Madame Roy, elle me répète à moi, l'eau. Moi, j'ai cru qu'elle voulait boire. Et là, elle lui dit, Madame Roy, elle lui dit, l'eau, elle est pas bonne. Elle pue, elle lui dit. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'eau, je l'ai goûtée. J'ai pas senti de goût, de quoi que ce soit. Et je rebois une deuxième fois, de suite. Et quand je l'ai avalé, c'était amer. J'ai dit, ah oui, il y a quelque chose. J'ai dit, goûtez, Madame Roy. Madame Roy l'a goûté, comme moi. Elle la prend, elle la met dans la bouche et tout, elle crache tout sur le lit de suite. Elle dit, ah oui, elle est amère. Elle a été se laver la bouche.
C'est la cinquième fois que Gabi appelle le SAMU, mais aucune ambulance en vue. L'homme embarque donc la vieille dame dans sa voiture, direction les urgences du CHSU de Nice. Là, les soignants entubent Suzanne Bailly. Son estomac se retourne, elle vomit une bile noire, comme celle d'un poulpe, pense Gabi. Mais il ne peut plus rien faire pour son amie. Les infirmières prennent son numéro pour donner des nouvelles de Suzanne et lui conseillent de rentrer chez lui. Voilà. À peine a-t-il parcouru 500 mètres depuis l'hôpital qu'un brouillard se forme. Il ne voit plus rien. Et surtout, sa cage thoracique l'oppresse. Alors tant bien que mal, il parvient quand même à rentrer chez lui. Il se traîne sur le trottoir, s'accroche au grillage de son jardin, puis il tombe, évanoui. Ce n'est que 2 heures plus tard que sa femme, revenue à la maison, appelle les pompiers.
Ici, les pompiers disent à ma femme, il a fait un AVC. Ma femme rentre dans l'ambulance avec les pompiers, m'emmène à l'hôpital, arrive à l'hôpital. Il s'aperçoit que je ne peux plus respirer. Et j'ai la chance que l'interne qui est rentré, Madame Bailly, c'est le même qui me rentre à moi. Et en fin de compte, il voit que je ne peux pas respirer rien. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend, il me met l'appareil pour m'écarter tout ce qui est la trachée. Et je vomis. Et quand je vomis la même couleur que Madame Bailly.
Au soir de ce 7 avril 2015, les urgences du CHU de Nice se retrouvent donc avec 2 patients présentant les mêmes symptômes et qui se connaissent. Suffisant pour alerter les soignants qui contactent la police. Sur place, les enquêteurs peuvent arracher à Gabi à demi-conscient une information capitale. Il a bu de l'eau chez Suzanne. Mais impossible d'interroger cette dernière qui se démène comme un diable dans un coma halluciné. Les policiers filent donc à son domicile. Là, il repère tout de suite la bouteille d'eau, en bonne place, sur la table de la salle à manger. Et quand les résultats des analyses tombent, elle ne laisse place à aucun doute. Cette eau contient les traces d'une substance mortelle, l'atropine. Alors le procureur de la République n'hésite pas. Il ouvre une enquête pour empoisonnement avec préméditation. Bien. Mais qui a voulu tuer Suzanne Bailly? Et surtout, pourquoi? La retraité de 85 ans semble sans histoire. Sa vie s'écoule tranquillement entre Belfort et la Côte d'Azur. Aucun ennemi en vue. Personne à qui son décès pourrait profiter. Bon, la police trouve bien dans un secrétaire de l'appartement une copie de testament. Il désigne un certain Monsieur Gérard comme légataire universel. Et ce dernier n'a pas quitté Belfort ces derniers jours. Il n'était même pas au courant que Suzanne désirait lui léguer ses quelques biens. Son ignorance, évidemment, l'efface de la liste des suspects. Pendant ce temps, Suzanne est toujours aux soins intensifs, inconsciente. 3 jours plus tard, elle se réveille enfin. Et c'est elle qui va mettre les enquêteurs sur la piste de son empoisonneur.
Je me suis réveillée le vendredi. J'étais dans le coma, ils m'ont mis un coma artificiel aussi, je crois. Un policier est venu me dire que j'étais empoisonnée. Alors qu'on cherchait d'où ça venait. Voilà. Oh, ben j'étais sidérée. Navrée. Comment on peut faire une chose pareille?
Non, franchement, la vieille dame ne voit pas qui pourrait en vouloir, lui en vouloir, au point de vouloir la tuer. Après un temps de stupéfaction, elle relève les yeux vers le jeune flic en face d'elle et elle lui dit « C'est quand même pas Monsieur Kapler. » Olivier Kapler. Dans leur enquête, les policiers n'avaient pas encore croisé ce nom. Mais quand Suzanne Bailly leur explique qu'il s'agit de son débit rentier, le propriétaire de son appartement vendu en viager, il voit tout de suite se dessiner un mobile. Tellement classique, le viager. Annie Roy, l'amie de Suzanne, mène aussi les enquêteurs sur cette piste. Elle leur raconte sa drôle d'expérience le jour du malaise de sa voisine. Pour le documentaire « L'affaire Kapler, poison, viager et vieille dentelle », diffusé sur France 2, elle livre le récit de ce moment étrange.
Le 7 avril, donc, je ne sais pas ce qui me prend, je dis « Tiens, je vais aller vérifier ce qui se passe chez Suzanne. » Étant donné qu'elle me laisse ses clés, que j'aille surveiller un petit peu, je suis arrivée, je l'ai appelée, je lui dis « Suzanne, vous êtes là ?» Alors j'entends une voix qui fait Je dis « Mais ça va ?» Parce que la voix venait du WC. Alors je lui dis « Oh, bah, écoutez, ça n'a pas l'air d'aller. » Je vais... Puis mon téléphone sonne là-dessus. Alors je lui dis « Bon, écoutez, je vais répondre et je reviens tout de suite. » Au bout du fil, j'entends rien du tout. Pas de voix, rien. Alors je lui dis, tiens, c'est une erreur. Quand je reviens, il n'y avait plus personne. Alors j'attends qu'elle revienne, et quand elle rentre à midi, je lui dis, mais enfin, Suzanne, vous en avez des façons de partir comme ça? Elle me dit, comment ça? Ben, je lui dis, oui, quand je vous ai parlé ce matin. Elle me dit, mais c'est pas possible ce matin. J'étais pas là, j'étais chez le coiffeur depuis 8 heures du matin.
Enfin, un élément tangible. Les enquêteurs demandent une analyse des lignes téléphoniques. Le numéro qui a appelé le téléphone fixe d'Annie Roy est rapidement identifié, c'est celui d'Olivier Kapler. Grâce au bornage des téléphones portables, la présence du propriétaire débirentier de Suzanne Bailly est bien confirmée dans la résidence le matin de l'empoisonnement. Le 20 avril 2015, la police perquisitionne l'appartement du couple Kapler qui réside aussi au Canet. Extrait du procès-verbal. Découvrons dans le placard de la cuisine une boîte du laboratoire Virbac Santé Animale sur laquelle il est inscrit VT12 atropine 1% collyre contenant 18 doses de 0,4 ml. De l'atropine, comme le poison retrouvé dans la bouteille d'eau de Suzanne, dans son sang et dans celui de Gabi. La garde à vue commence. Mais Olivier Kapler s'offusque. Comment peut-on le soupçonner, lui, d'un tel crime? Empoisonner une vieille dame, ça va pas, non? L'homme à la quarantaine, une montre de collection poignée, une barbe de 3 jours poivre et sel. C'est un chef d'entreprise qui a réussi par un voyou à la petite semaine. D'ailleurs, sûr de lui, il a réponse à tout. L'atropine trouvée à son domicile, un composant du collyre qu'il délivre à son chien qui a des problèmes oculaires. Que faisait-il aux alentours de l'appartement de Suzanne Bailly le matin du 7 avril et pourquoi a-t-il fait sonner le téléphone fixe de sa voisine Annie Roy? Là aussi, Kapler a une explication. Tordue, mais une explication. Il affirme qu'il possède les clés de cet appartement puisqu'il en est le propriétaire. Il est d'ailleurs désireux de le revendre. même si le viager est occupé. Mais, comprenez-vous, il n'osait pas en parler à Suzanne, c'est délicat. Ce matin-là, il s'est donc introduit dans l'appartement en son absence pour prendre quelques photos. Voilà, c'est tout. Et quand Niro a déboulé, il s'est caché dans les toilettes et s'est fait passer pour Suzanne parce qu'il avait honte. Admettons. Mais pourquoi aucune photo n'apparaît-elle dans la galerie de son téléphone? Eh bien parce qu'il s'est fait déranger par Annie. À chaque audition, le mis en examen ne répète qu'une chose à la juge d'instruction, il est innocent. Et puis être un investisseur en viager ne fait pas de moi ni un coupable ni une mauvaise personne, dit-il. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Kepler.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Les dénégations d'Olivier Kepler n'empêchent pas les enquêteurs d'amasser d'autres indices. En particulier sur la situation financière de ce chef d'entreprise. Alors pour commencer, il n'est plus chef d'entreprise. Non, la société de découpe de viande qu'il dirige, héritée de son père, est en dépôt de bilan depuis avril 2014. Pile un an avant l'empoisonnement de Suzanne Bailly. Depuis, il ne perçoit plus de salaire et en juin 2014, avec son train de vie nabab, ses dettes s'élèvent déjà à 300 000 euros. Tout cela ressemble quand même et furieusement à un mobile solide. Et puis on trouve des traces de virements en espèces inexpliquées, près de 70 000 euros tout de même. Olivier Kepler a aussi mis en vente une Rolex et des pièces d'or. L'analyse des recherches effectuées sur les ordinateurs, les siens, révèle également quelques pépites. Il fait des recherches Google pour chlorure de potassium ou atropine. En navigation masquée, il regarde où s'en procurer dans les pharmacies belges. Encore plus troublant, Kepler effectue plusieurs recherches dans les jours qui suivent, le 7 avril et l'hospitalisation de Suzanne, en tapant son nom suivi de l'expression « avis de décès ». Mais il poursuit ses dénégations. Tous ces indices des enquêteurs, ils ne résultent que d'un malheureux concours de circonstances. Mais aveu ou pas, l'instruction arrive à son terme. Nous sommes le 12 avril 2017. Et là, un article très informé paraît dans Nice Matin. Le récit de l'empoisonnement de Suzanne, rebaptisé Rose par le journaliste, le témoignage de Gabi, les charges qui pèsent sur Kapler, désignées par son prénom et l'initiale de son nom dans l'article, Olivier C., les résultats de l'enquête, tout y est. En ouvrant le journal, Suzanne se reconnaît immédiatement. Le même matin également au Canet, deux sœurs lisent Nice Matin. Et chacune de son côté pense à la même chose. Cet Olivier C., là, qu'on soupçonne d'avoir voulu empoisonner une vieille dame, aurait-il un rapport avec l'ami de leur tante brutalement décédée quelques mois plus tôt ? Elles veulent en avoir le cœur net. Evelyne, l'une d'entre elles, retrouve Gabi, citée nommément dans l'article du journal. Le coup de fil qu'elle lui passe la convainc. Il s'agit bien du même homme. Oui, un homme qu'Evelyne, comme sa sœur Marie-Martine, ont toujours trouvé charmant. Il était surtout si dévoué avec leur tante, qu'il appelait d'ailleurs son filleul de cœur.
Alors ma tante, elle était complètement sous l'influence affective de M. Kapeller. Elle ne jurait que par lui. Il était devenu le centre de sa vie. Il s'occupait de ses papiers, il s'occupait de ses comptes en banque, il s'occupait de ses médecins, il l'emmenait faire ses courses, il venait déjeuner avec elle très très régulièrement. Il a fait tout ce qu'il a pu pour éloigner son entourage familial. Olivier, c'était parole d'évangile. Il était directeur d'entreprise, donc déjà, psychologiquement, ça avait un certain impact. Donc elle était complètement sous son emprise et tout ce qu'il lui disait, Olivier a dit, Olivier m'a dit, donc il fallait faire ce qu'Olivier lui avait dit.
Jacqueline Imbert, la tante d'Evelyne et de Marie-Martine, n'a aucun lien d'argent avec Olivier Kapeller. Il n'a pas racheté son appartement en Viager, non. C'est en voisine, de la même résidence, qu'elle a sympathisé avec cet homme d'une cinquantaine d'années, son cadet. Il pourrait être son petit-fils si elle avait eu des enfants. D'ailleurs, Olivier était si gentil, si présent au moment de la mort du grand amour de sa vie, son mari, Milou, quelques années plus tôt. Et depuis, il est gai son quotidien. Il l'emmène faire des tours dans des voitures de luxe. Ses voitures de luxe. Il l'emmène au resto aussi. Bon, c'est toujours Jacqueline qui paye, mais ce sont de doux moments pour la vieille dame. Même à la mort brutale de Jacqueline, début novembre 2014, il a été très présent. Et pour cause. Les deux nièces l'apprendront alors. Il est depuis quelques mois son légataire universel. Jacqueline lui a tout donné. Son appartement au Canet, puis sa petite maison de l'arrière-pays. Son assurance vie également. Et le contenu d'un coffre où étaient cachées pièces d'or et billets de banque. Le corps de Jacqueline est à peine froid qu'Olivier Kapeller met en vente toutes ses affaires, ses meubles, ses jolis vêtements, sa précieuse collection de carrés Hermès. Un héritage estimé à 700 000 euros. À l'époque, Evelyne et sa sœur ne pensent pas plus loin. C'était le choix de leur tante. Mais là, l'article de Nice Matin leur offre une autre perspective sur la mort de Jacqueline. Le 19 juin 2017, Evelyne et Marie-Martine sont devant le caveau familial au cimetière du Grand Jas à Cannes. Des agents des pompes funèbres exhument le cadavre de leur tante. Autour d'eux, les policiers en charge de l'enquête, un médecin légiste et la vice-procureure. Parce que les deux sœurs ont autorisé une autopsie. Commence alors une longue attente, pétrie de doutes. Olivier Kapeller, lui, ignore tout de cette deuxième piste ouverte par l'enquête. Alors il continue à clamer son innocence devant la juge. Avec son avocat, il multiplie les initiatives pour reporter son procès pour empoisonnement avec préméditation de Suzanne Bailly. Du fond de sa cellule, il écrit à sa femme. Mon amour, je suis écœuré à un point qu'il est difficile d'imaginer par ces hypothèses montées en épingle pour donner du crédit à un torchon fait de résumés incohérents, mensongers et honteux. Le 10 janvier 2018, les résultats des analyses des cadavres de Jacqueline Imbert parviennent enfin sur le bureau du brigadier-chef qui chapeaute l'enquête. Et bis repetita, on a trouvé de l'atropine dans le cœur, le foie, les cheveux. Pour Marie-Martine et Evelyne, c'est l'effroi.
Je vous assure que moi, ça fait depuis ce temps-là où je suis sous traitement, ma sœur aussi d'ailleurs, parce que j'ai constamment dans la tête des images, cette vision d'une main versant du poison pour donner la mort à quelqu'un que l'on prétend aimer comme sa grand-mère, quelqu'un que l'on prétend adorer. Il faut absolument que justice soit faite. Pour moi, c'est indispensable. Comment peut-on faire une chose pareille ?
Dont acte. La juge ordonne une deuxième instruction contre Olivier Capeler autour de la mort de Jacqueline. Comme à son habitude, il a une explication. Jacqueline est bien morte de l'atropine, mais de son propre chef. Elle voulait se suicider pour rejoindre son cher Milou. Alors les nièces s'étouffent. Mais c'est faux! Leur tante aimait la vie, malgré son chagrin légitime de veuve. Et puis sa foi catholique fervente lui interdisait de se donner la mort. Alors qu'une autre enquête est ouverte, Olivier Capeler doit affronter un premier procès qui s'ouvre le 4 mars 2019 pour l'empoisonnement de Suzanne Bailly. Elle est là, Suzanne, vaillante sur les bancs du tribunal. Toujours tirée à quatre épingles, un chemisier jaune de la couleur de ses mimosas qu'elle aime tant ici, sur la Côte d'Azur. Olivier Capeler, lui, n'a pas changé de ligne de défense. Il se montre toujours aussi offusqué qu'on l'accuse, lui, d'avoir essayé d'éliminer une retraitée. Et malgré la prison, il n'a rien perdu de son assurance. Il dénonce à la barre un complot médiatique dont il ferait l'objet. Mais le président de la cour d'assises a une carte dans sa manche qui va, pour la première fois, déstabiliser l'accusé. Maître Darret, l'avocat de Suzanne Bailly, raconte.
Tout le monde retiendra dans ce procès un événement particulièrement déroutant que l'on peut mettre à l'initiative du président qui va décider, au bout de 2 jours d'audience, de donner connaissance aux jurés d'écoutes téléphoniques. Lors de ces écoutes, on entend notamment le frère de M. Capeler qui, lors d'une conversation avec la mère de ceci, va lui dire « je sors d'un parloir ». Il a enfin reconnu, il veut libérer sa conscience, il a fait une énorme erreur, il va la reconnaître.
La carapace se craquelle. Capeler perd de sa superbe, transpire à grosses gouttes sur le banc des accusés. Mais il tient bon. Et là encore, il a une explication à ses écoutes accablantes. C'est son frère qui a mal compris. Et Capeler le répète, « je suis innocent ». Mais la cour d'assises balaie cette fable. Et le 6 mars 2019, Capeler est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour l'empoisonnement de Suzanne Bailly et celui de Gabi. Dommage collatéral de cette opération crapuleuse de récupération d'un viager. Eh bien, il a joué, il a perdu, commence sa victime de 89 ans. Capeler fait appel et se retrouve un an plus tard, en 2020 donc, devant la cour d'appel des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence. Et là, sa stratégie a changé. Il reconnaît avoir versé de l'atropine dans la bouteille de vitel de Suzanne Bailly, mais sans intention de la tuer, non. Il voulait simplement provoquer un malaise, l'effrayer, pour que la vieille dame rentre définitivement à Belfort et abandonne toute prétention sur l'appartement du Canet. Ses deux mises à vœux ne convainquent pas. Peine alourdie, cette fois elle prend 25 ans. Et la justice n'en a pas fini avec Olivier Capeler. Le 24 mai 2022, le voilà de retour devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Cette fois, il est jugé pour l'assassinat de Jacqueline Imbert. Il a changé de conseil, exit l'avocat du barreau de Nice. Cette fois, il a fait appel à des ténors parisiens d'un cabinet réputé. Avant l'audience, sa nouvelle avocate, Corinne Dreyfus-Schmidt, déroule ses arguments.
Alors, monsieur Capeler est extrêmement peiné des accusations concernant madame Imbert. Parce que c'est une femme qu'il aimait profondément et auquel il était profondément attaché, et qu'on ait pu penser qu'il ait voulu se débarrasser de cette femme de 92 ans, le chagrine énormément, et il va se battre pour démontrer son innocence dans ce dossier.
Capeler pleurniche devant la cour. Dans sa main, il triture un mouchoir blanc. Jamais, jamais je n'aurais pu faire de mal à Jacqueline. Être accusé de l'avoir empoisonnée, c'est une horreur. J'étais le petit-fils qu'elle n'avait pas eu. J'ai rempli une case manquante, dit-il des sanglots dans la voix. Pour tenter de convaincre les jurés, il avoue. Oui, il a bien commis cet acte horrible avec Suzanne, qu'il reconnaît enfin, après l'avoir tant nié. Mais avec Jacqueline, il n'aurait pas pu. Non, ça jamais. Mais face à cette dénégation, les jurés constatent aussi les éléments rassemblés pendant l'enquête. Et notamment les concentrations d'atropine retrouvées sur le cadavre de la vieille dame, 2 ans après sa mort. L'expert est catégorique. 2 ans et 8 mois après le décès, la concentration d'atropine est 45 fois supérieure à l'usage thérapeutique. Le décès de Jacqueline Imbert est clairement dû à une intoxication à l'atropine. Pour cet assassinat, Olivier Capeler est condamné à perpétuité. Pour les nièces de Jacqueline, justice est faite. Quant à Suzanne...
quand on fait mal, on est puni. Il a fait mal, il est puni, c'est normal. C'est normal qu'il n'ait pas pensé qu'il allait être puni. C'est ce que je vous dis, au départ, c'est un imbécile. Parce qu'il aurait bien dû penser que ça se ferait un jour. Et ça s'est vu.
Suzanne a survécu à son imbécile d'empoisonneur. Le problème, dit-elle, c'est que depuis, je ne veux pas mourir. Et puis elle rit. Suzanne a donc repris ses habitudes, coiffeur le mardi, marcher le samedi. Et citoyenne modèle de notre société djihadiste, elle précise que du bio pour préserver sa santé. Mais depuis son empoisonnement à l'atropine, Suzanne a perdu le goût. Une aguesie rageante pour cette gourmande. Elle continue pourtant à préparer sa soupe et sa compote tous les jours dans la cuisine de son pavillon Belfort, où pas un grain de poussière n'apparaît sur les meubles cirés. Elle ne va plus au Cannet. Au printemps 2024, elle a pris cette grande décision. Elle a libéré l'appartement tant convoité.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Olivier Kepler. Notre invité Christophe Perrin. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes journaliste, spécialiste des faits diversiers quoi. Et vous avez suivi toute l'affaire Kepler, vous êtes aussi le premier à rendre public l'empoisonnement dont a été victime Suzanne Bailly, on va y revenir. D'ailleurs, on y revient maintenant. Comment cette histoire parvient-elle jusqu'à vous et à quel moment vous vous dites « Oula, là il y a une histoire, il y a quelque chose, qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille ?»
Mais écoutez, si je me souviens bien, c'est le procureur de la République de Grasse de l'époque, hein, Monsieur Gutiérrez, qui annonce en avril 2015 la mise en examen pour empoisonnement avec préméditation d'un suspect. Un suspect par ailleurs placé en détention provisoire. À l'époque, aucun nom n'est donné. On sait seulement qu'une retraitée du Cannet a failli mourir. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Le suspect, lui, est un homme qui lui a acheté en viager un appartement 8 ans plus tôt. Il lui versait une rente de 600 euros à peu près par mois. Il n'est pas connu de la justice et en fait, donc on a assez peu d'éléments. On découvrira quand même plus tard qu'il a déjà été condamné par le passé, dans sa jeunesse, pour un abus de confiance. Mais c'est vrai que, bon, pour l'instant, ça reste assez mystérieux. Il y a évidemment le secret de l'instruction qui est bien gardé. On saura pourquoi par la suite, puisque là, on en est vraiment aux prémices de l'enquête.
Et pourquoi on saura par la suite que le secret de l'instruction a été bien gardé ?
Bah écoutez, je pense que assez vite le procureur pense qu'il y a peut-être d'autres victimes potentielles.
Ah oui, voilà.
Hein, voilà. Donc évidemment, il y a peut-être évidemment d'autres victimes qui vont se manifester. Donc voilà. Donc il y a un secret de l'instruction autour de cette affaire. Et j'avoue que quand j'ai commencé à travailler sur le suspect. J'ai eu beaucoup de difficultés également à avoir des informations sur ce monsieur Kepler.
Et à un moment, vous vous êtes dit, bon, j'attends d'avoir assez d'éléments pour présenter une histoire. Vous attendez longtemps. Quelles sont les pièces d'information de votre article que vous voulez rassembler avant de publier?
Oui, bah, le problème aussi dans cette affaire, c'est qu'il y a une présomption d'innocence. Donc on est obligé quand même d'être très prudent avant de publier un nouvel article. Mmh. Et c'est vrai que j'attendrai 2017 pour publier un papier où je parle toujours d'un certain Olivier C. Hein, je cite toujours pas son nom parce que par respect de la présomption d'innocence. À l'époque, j'ai donc quand même réussi à avoir quelques informations sur son parcours professionnel. On a recueilli aussi le témoignage de Gabriel, vous savez, l'ami et voisin de Suzanne Bailly, qui lui-même a été empoisonné par oui. cette eau minérale. Donc voilà, on a suffisamment d'éléments pour enfin publier une suite à cette affaire d'empoisonnement.
Alors, est-ce qu'après la publication de ce papier, les nièces de Jacqueline Imbert ont pris contact avec vous, par exemple ? Et plus généralement, qui avez-vous rencontré ? Qu'est-ce qui vous a permis de faire avancer l'enquête, dans le respect, pour ma part, de vos sources d'information protégées ?
Écoutez, je pense effectivement que les nièces de Madame Humbert m'ont contacté. J'en ai plus vraiment souvenir, mais c'est vrai que quand elles ont lu Olivier C, évidemment, ça leur a fait penser à Olivier Capler, qui était très proche de leur tante. Et elles ont été très troublées par le décès brutal de Jacqueline, et elles étaient quand même comment dire, elles soupçonnaient évidemment Monsieur Capeller de peut-être avoir précipité la mort de leur tante.
Alors vous qui êtes fait diversier, c'est vrai que le viager est un ressort comique pour les films. Dans la vie, c'est presque déjà une suspicion en soi. C'est-à-dire que viager qui se passe bien, ça va, mais quand ça se passe un petit peu mal, on se dit oulala, est-ce qu'il a pas tué, est-ce qu'il a pas empoisonné, parce que il y a un viager. Est-ce que cette dimension du viager vous a mis aussi la puce à l'oreille, est-ce que ça vous a encouragé à penser qu'il y avait peut-être un crime?
Écoutez, j'avoue que bon, un viager, c'est un pari sur la mort. Alors évidemment, il y a oui. Il y a des scénaristes qui ont vu qui pouvaient en tirer une histoire amusante. Je vous avoue que là, Suzanne Bailly plaisantait aussi parfois sur ce thème avec ses voisines, hein, puisque ce qui est aussi un peu tragicomique dans cette affaire, c'est que Olivier Capeller, pendant des années, n'a pas du tout pris contact avec sa crédit rentière. Et ces derniers mois, en 2015, il venait sans arrêt à son domicile. Et elle plaisantait avec ses amis en disant « bah, il doit venir voir si je ne suis pas morte hein. ». Et en fait, malheureusement, quand j'ai côtoyé Madame Bailly, j'ai bien vu qu'il n'y avait rien de comique dans tout ça. La tentative d'assassinat qu'elle a subie l'a profondément meurtrie. Je pense qu'elle ne pardonnera jamais à Capeller ce qu'il a fait. Elle s'est sentie trahie. Elle n'a pas compris qu'elle, qui a toujours cherché à faire le bien autour d'elle, elle soit prise pour cible. Elle ne peut pas du tout lui pardonner sa cupidité et sa lâcheté.
Est-ce que c'est un fait divers qui a été retentissant dans la région ?
Oui, évidemment. Alors nous, on a suivi l'ensemble des quatre procès où Monsieur Capeller a comparu. Je pense surtout qu'il dit beaucoup de choses de notre société et de la vulnérabilité des personnes âgées dans une région comme la nôtre. Vous savez qu'il y a énormément de personnes seules, hein, qui ont parfois des biens. Mmh. Et je pense que c'est un vrai fait de société, parce que vous savez, très longtemps on a sous-estimé l'ampleur des violences intrafamiliales. Et je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime aussi l'ampleur des violences que subissent ces personnes âgées isolées.
France Inter. Affaires sensibles.
Christophe Perrin, je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des faits divers, que vous avez suivi toute cette affaire Capeller. Vous êtes aussi le premier, surtout, hein, à rendre public l'empoisonnement dont a été victime Suzanne Bailly dans un article, votre premier article sur l'affaire. Vous intervenez en direct de Nice dans les studios d'Ici Azur. Ici Azur, c'est le nouveau nom de France Bleu Azur. Maintenant, ça s'appelle Ici quelque chose. Voilà, on va revenir à notre affaire et parler de Suzanne, parce que vous me dites, si je me trompe, hein, mais je crois que Suzanne a fait l'objet de deux tentatives d'empoisonnement avant la troisième, celle que nous avons racontée le 7 avril 2015. Vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Il y a eu deux premières tentatives. À chaque fois, elle est arrivée aux urgences dans un état très agité. Elle ne contrôlait pas du tout le mouvement de ses jambes, de ses bras. Ses pupilles étaient dilatées. Et les médecins pensaient à un AVC, hein, ils n'avaient pas vraiment d'explication au malaise de cette retraitée. Et en fait, il a fallu que Gabriel, son voisin et ami, arrive aux urgences avec les mêmes symptômes pour que, enfin, les médecins puissent mettre au jour la présence d'atropine dans les analyses de Gabriel et de Suzanne.
Parce qu'il n'y avait aucune piste pour les deux premiers ?
Absolument, oui. Vous savez, je pense que c'est aussi l'un des problèmes de l'empoisonnement, c'est que c'est quand même des crimes qui sont particulièrement difficiles à établir pour la justice. Et là, si Gabriel n'est pas admis aux urgences le même jour que Suzanne, je pense que on serait peut-être encore en train de chercher les raisons du malaise de Suzanne Bailly.
Alors Suzanne, on l'entend dans les archives que nous avons diffusées, n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Comment la décririez-vous ?
Ah bah c'est une femme assez formidable, hein, qui a une très forte personnalité, mais qui a aussi une vie très simple, hein, et qui s'est toujours dévouée aux autres. Elle était dactylo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chez Alstom. Elle a économisé toute sa vie pour pouvoir s'offrir cet appartement au soleil. Elle s'est occupée aussi beaucoup de sa sœur handicapée. Et donc oui, elle comprend pas qu'on ait voulu lui faire du mal, parce que elle évidemment a toujours cherché à faire le bien autour d'elle.
Alors quelle était son attitude pendant le procès, l'attitude de Suzanne? On parlera de Kapler après, évidemment.
Bah écoutez, je pense satisfaite que le procès se déroule le mieux possible. Sa parole a été évidemment très écoutée par les jurés et par les magistrats. Elle était confrontée, elle était située en face de son empoisonneur. Évidemment, elle avait du mal à contenir sa colère, parce qu'elle comprend pas très bien le comportement de Monsieur Kapeller.
Alors parlons de lui justement, pendant le procès, donc de ce que nous avons raconté, il continue à raconter ses fables, hein, au procès, à dire qu'il est innocent malgré le dossier qui est quand même assez accablant. Racontez-nous comment vous l'avez perçu.
Oui, alors, c'est toujours un peu difficile de commenter le comportement d'un homme qui essaie de sauver sa peau. Hein, il est entre deux policiers, sa famille est dans la salle, il y a la cour et les jurés qui le scrutent et qui vont vraisemblablement le condamner. Évidemment que c'est difficile pour un homme d'avouer qu'il s'est comporté comme une crapule, avec en plus une charmante retraitée. Voilà. Donc, alors, évidemment, il nie jusqu'à l'absurde, parce que il y a tellement d'éléments à charge. Alors finalement, en plus, le magistrat est un magistrat opiniâtre. Hein. Le président ne le lâche pas. Et à un moment donné, il est contraint d'admettre qu'effectivement, il s'est mal comporté avec Suzanne Bailly et qu'il a introduit un poison dans la bouteille d'eau minérale. Alors, il explique que non, mais il voulait pas, surtout pas tuer Suzanne Bailly, il voulait lui faire peur. Hein, mais bon, et d'ailleurs, ses avocats vont tenter de plaider l'administration de substances nuisibles, hein, qui est un délit et qui n'est pas un crime. Mais l'atropine à dose importante est un poison mortel.
Vous avez assisté aux deux procès, parce qu'il vous appelle?
Absolument.
Alors, et racontez-moi les différences entre le premier procès. J'imagine que vous n'attendiez pas personne n'attendait une peine plus réduite. Hein. Au contraire, c'était à minima, ils prenaient la même peine. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que l'ambiance, l'atmosphère, les propos tenus ont été différents entre les deux audiences?
Alors, vous voulez parler des deux procès de Suzanne Bailly?
Oui, on parle de celui de
Jacqueline Imbert ensuite.
Après,
d'accord. Ouais. Écoutez, non, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans son comportement. Je trouve que d'ailleurs, à chaque fois, c'était des demi-aveux. Et donc, du coup, je pense pas que c'était pas très bien perçu par la cour et les jurés. Et puis, ce qui était très compliqué pour lui, c'est qu'il avait en face de lui une retraitée qui était une femme très émouvante et qui savait faire passer toute l'émotion qu'elle avait, elle, ressentie à cause de ses empoisonnements.
Le mobile, c'est bien les dettes, non? Ça paraît clair, c'est crapuleux pour de l'argent, quoi.
C'est ça, c'est un mobile crapuleux. Alors, ce qu'on comprend mal avec cet accusé, vous savez, les accusés dans les cours d'assises, souvent quand on regarde leur parcours de vie, leur enfance, et puis on trouve pas forcément des justifications, mais en tout cas des explications à leur comportement. Olivier Capeller, lui, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mmh. C'est-à-dire que, alors, il a quitté certes rapidement ses études, il est rentré très vite dans la vie active, mais son père lui a confié une entreprise. Il avait un train de vie mais très confortable puisqu'il avait un patrimoine immobilier assez conséquent. Il aimait beaucoup les montres de collection. Il avait 3 véhicules de luxe. Enfin, il avait vraiment le train de vie d'un homme qui avait réussi. Et c'est vrai que quand il a perdu son emploi, quand l'entreprise familiale a été rachetée et qu'il a été évincé, je pense qu'il a eu du mal à admettre qu'il devait réduire ses dépenses et sacrifier son train de vie.
Un petit détour, avant de parler du procès pour Jacqueline, un petit détour par Gabi. Voilà un homme qui était quand même victime d'une tentative d'empoisonnement, qui aurait pu mourir. Certes, les faits établissent qu'il était, comme on dit, une victime collatérale. Pas très beau, hein, ça existe. Comment il a vécu cette affaire-là, lui? Comment il s'en est sorti?
Alors, Gabriel, c'est vrai qu'il est, il est un peu éclipsé par la personnalité de Suzanne Bailly. Mais c'est un homme aussi au parcours de vie assez étonnant qui a failli mourir plusieurs fois dans sa vie. C'est assez incroyable, mais dans son malheur, il a toujours survécu. Il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Lui aussi, je pense, ça a été un très grand soulagement, évidemment, que Monsieur Capeller soit condamné à une lourde peine.
Oui. Alors, la plus lourde peine, il l'aura pour l'empoisonnement de Jacqueline, parce qu'il y a quand même une différence, pas dans l'intention, apparemment. Contrairement à ce qu'il dit, mais il y a une différence, c'est qu'il y a une victime, il y a quelqu'un qui meurt. Hein, oui, il y en a deux qui ont failli mourir et une qui meurt carrément.
Oui, alors quand on regarde le droit, les textes, la tentative d'assassinat est punie de la même façon que l'assassinat.
Eh oui, c'est pour ça qu'il y a eu 20 ans. Hein, oui.
Voilà, c'est même la réclusion perpétuelle. Mmh. Il se trouve que dans les faits, quand vous fréquentez les cours d'assises, vous vous rendez compte que la tentative d'assassinat est quand même moins punie que l'assassinat. Hein. Quand évidemment la victime a survécu, la peine est quand même pas la même que quand la victime décède. Et là, effectivement, pour l'affaire Jacqueline Imbert, il y a un décès, il y a la présence d'atropine, et c'est ce qui explique que Monsieur Capeller ait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Alors, toute dernière chose, Capeller a été condamné pour ce qu'il a fait, à Suzanne Bailly et Jacqueline Imbert et Gabi. Reste-t-il un doute sur d'éventuelles victimes supplémentaires? Est-ce que cette affaire est entre les mains d'un Paul Cold Case, par exemple, au cas où on retrouverait d'autres victimes?
Alors, ça n'a pas été vraiment évoqué lors des procès, mais en 2008, il a effectivement acheté son deuxième viager à une certaine Madame Hézard, et cette dame est décédée 7 mois plus tard. Oui. Voilà. Il expliquait d'ailleurs lui très doctement qu'il avait acheté en tout 5 viagers. C'était pour, dit-il, minimiser le risque du centenaire ou de la centenaire.
Ah oui.
Donc là, en l'occurrence, cette Madame Hézard est décédée très rapidement. Elle a été incinérée. Il n'y a aucune investigation qui, évidemment, n'a pu être réalisée. Mmh. Donc, écoutez, le doute doit profiter à l'accusé, hein, selon la formule consacrée.
Ce sera le mot de la fin, le mot juridique de la fin. Merci infiniment, Christophe Perrin. Au revoir. Et affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Olivier Capeller, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.